France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est le genre de sujet qui apparaît soudain sur les réseaux sociaux et dans la presse et dont on pourrait se méfier. Le nom de ce supposé phénomène, c'est le divorce alpin. Ainsi, de plus en plus de femmes raconteraient avoir été abandonnées ou laissées en plan, en pleine montagne ou au milieu de la nature, par leurs compagnons, lors de randonnées, de trails, d'ultra-trail ou de sorties à ski, et ce, pour des motifs divers, au prétexte qu'elles ne suivent pas, n'ont pas le bon rythme, sont trop lentes ou sans raison. Bien souvent, ces comportements masculins seraient liés à la performance qu'ils entendent réaliser, aux records qu'ils veulent battre et consigner sur l'appli Strava, devenu un comparateur universel d'ego viril. On se dit dans un premier temps que le phénomène peut être anecdotique, qu'il ne représente pas véritablement un pattern, un système. Sauf que d'abord, les témoignages sont nombreux, précis et concordants. Ceux recueillis par le très sérieux média en ligne Reporter, par exemple, sont fort circonstanciés. Il faut cependant inscrire ces témoignages dans un continuum de violence et dans une logique de contrôle coercitif visant à montrer à l'autre qu'elle peut être laissée seule et vulnérable. C'est ce qu'explique la sociologue Johanna Dagorn dans le même média Reporter. Ce qui rend finalement l'expression de divorce alpin un peu folklorique, même si elle permet de comprendre rapidement de quoi il s'agit. Des pratiques qui rappellent aussi les histoires de femmes abandonnées sur l'autoroute, la performance en moins, et sont évidemment le signe d'une relation plus que toxique. On vous en raconte une aujourd'hui qui ne parle pas seulement d'une randonnée à ski donc, mais de violences conjugales caractérisées. Un témoignage recueilli par Carole Bailly.
J'ai 44 ans. Je suis violoniste de profession, j'ai une grande fille de 19 ans et j'habite en Suisse, à Bâle. J'ai rencontré le père de ma fille quand j'avais 23 ans. C'est un homme qui a 6 ans de plus que moi et très vite, ça me semblait être une relation qui allait être mature, on va dire, avec une personne avec un métier stable et puis qui avait connu beaucoup de choses dans sa vie, qui avait une vie extrêmement intéressante. La relation a plutôt mal débuté. En fait, un des premiers signaux où je me suis dit que c'était pas quelque chose de tout à fait normal que je vivais, c'était très tôt dans la relation, peut-être un mois et demi, deux mois après. J'ai eu des concerts à Zagreb et quand je suis revenue, parce qu'il avait accès à mon appartement, il avait mes clés, il avait vendu ma PlayStation, j'avais une PlayStation à l'époque, ainsi que mon canapé et ma télé. Et il m'avait dit, écoute, je suis médecin, je suis docteur, et ce n'est pas une activité, la PlayStation, ou bien simplement avoir une télé, qui est vraiment digne de ton âge. Il faut passer à autre chose, et puis ton canapé était moche. Et en fait, il l'avait vendu, il m'a pas donné l'argent de la vente, hein. Et il était simplement avec ce ton paternaliste, on va dire. Il commençait à faire de l'ingérence, en fait, dans ma vie, à dire ce qui était bien de faire ou mal. C'était la première fois que j'étais confrontée à une personne comme ça, évidemment très sûre d'elle, qui va mettre son métier en avant en disant qu'il sait comment est l'âme humaine, qui sont les gens, il est psychiatre à cette époque. Il se dirige vers une formation de thérapeute de famille et thérapeute de couple, ce qui veut dire que si on a des doutes en tant que partenaire ou on montre une certaine vulnérabilité, je pouvais facilement entendre que j'en savais rien, vu que je n'étais pas formée, je n'étais pas thérapeute de couple ou thérapeute de famille. Il disait « être psychiatre, c'est comme être Dieu ». Qu'on ait un patient qui aille bien ou qui aille mal, c'est pas notre faute, c'est pas notre responsabilité. Mais j'aime cette sensation d'être Dieu pour eux. Et en fait, cette sensation d'être Dieu pour eux, il l'avait aussi malheureusement dans sa vie privée et évidemment au sein de notre intimité où il décidait d'absolument tout. On s'était dit au début de la relation avec le père de ma fille que pendant 6 mois, je m'occuperais de la contraception et les 6 prochains mois, ce serait lui. Mais arrivent les 6 mois suivants et monsieur n'était pas d'accord de rentrer en matière. Et ce qui s'est bêtement passé, c'est que je me posais la question si j'allais continuer ce couple ou pas et je tombe enceinte en fait. Quand je lis ce test de grossesse, je me dis, ben tiens, en 2006, je vais être maman. J'en parle évidemment au futur père de ma fille et il est très heureux. Et en fait, très vite, je m'aperçois que le rôle de futur père, il n'a pas encore envie de le jouer. Étant médecin, il me dit qu'il connaît tout de la grossesse d'une femme ou de ce qui va se passer pour moi. Donc il ne veut pas assister à des cours pour l'accouchement, des visites avec une sage-femme. Soit il veut bien venir au rendez-vous obligatoire gynécologique, mais c'est la seule chose. C'est un moment assez particulier où je commence à sentir ma fille qui bouge à l'intérieur du ventre et il me dit « Je ne mettrai jamais les mains sur ton ventre, jamais. » Je lui demande pourquoi, il me dit « Mais tant qu'elle n'est pas là, elle n'existe pas. » Pour moi, c'est très difficile d'imaginer cette relation, dit-il. Et donc, si tu veux m'en parler, c'est très bien, mais je ne ferai pas de contact physique. J'y crois pas. Donc, début de grossesse pour moi un peu compliqué. Je me sens jeune, c'est vrai. J'ai pas d'amis de mon âge qui vont devenir maman. Je connais pas tellement de femmes autour de moi, à part ma sœur aînée, qui a eu une petite fille l'année d'avant. Et je me sens assez abandonnée, en fait, parce que on habite dans un endroit qui est loin de la civilisation. Il y a un accès à un bus, mais après, il faut encore prendre un train régional pour voir le monde en autre train. Et en fait, je suis loin de mes amis et de ma famille. On est fin février 2006, ça va faire 20 ans maintenant. Mon ex-mari décide sur une journée de congé d'aller faire de la peau de phoque. C'est comme du ski, mais seulement il n'y a pas de piste. Et l'idée, c'est d'aller en pleine nature et de pouvoir profiter de paysages qui ne sont pas balisés par des autres personnes. Et moi, étant juste au début de mon 6e mois de grossesse, ça me semble être une très mauvaise idée parce que j'ai pas forcément la condition physique et la respiration. Déjà, je sens que je dois respirer plus. Je suis aussi une femme qui a des contractions depuis le 3e trimestre. Quand je dis contractions, c'est peut-être une dizaine par jour. Et j'ai déjà eu, en fait, à ce moment-là, ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré avec trop de contractions quand ça dépasse 20 ou 30 par jour. Et donc, ma réponse, c'est ben non, c'est pas une activité qui fait du sens à 6 mois. Le bébé est là, il bouge toute la journée. Enfin, c'est voilà, je veux être prudente également. Mais en fait, comme toujours, il n'y a pas de discussion avec mon ex-mari. C'est-à-dire qu'il fait du forcing en disant que ça me fait du bien de rester en forme, ça me fait du bien de faire du sport, que d'ailleurs j'ai pris du poids et qu'il faut que je continue de faire du fitness ou bien d'avoir une activité physique, même intense, que ça a été prouvé, que c'est très bien, voilà, voilà. Donc, on se prépare pour notre sortie, qui est planifiée vaguement par lui. On est en 2006, donc moi, j'ai pas encore de téléphone portable, me semble-t-il. Donc, je crois que je le dis à personne, tout simplement. C'est un lundi, en pleine semaine, et on part faire cette excursion. Mon ex-mari était aussi obsédé par ne jamais dépenser quoi que ce soit. Donc, c'est un endroit où on ne paye pas en forfait. C'est aussi un endroit où il n'y aura pas de restaurant, où on ne peut pas s'arrêter quelque part. Donc, quand je dis isolé, c'est vraiment isolé. L'endroit où on est, c'est vraiment un paysage qui est non touché par l'homme. Donc, c'est des plaines de neige à perte de vue avec les sapins, enfin, vraie carte postale de la Suisse. On est peut-être à 2 heures de la maison en voiture. Mais encore une fois, j'habitais dans un endroit qui n'était pas avec un accès facile. Monsieur a une voiture, il parque sa voiture dans une sorte de parking au-dessus d'une côte. Et on part de là pour aller faire notre journée en pot de phoque. Il a la gentillesse de porter les boissons et de porter les sandwichs. On prend une pause vers midi pour pouvoir manger, sortir nos sandwichs préfabriqués par moi-même. Et je décide d'aborder à ce moment-là un sujet parce que ça fait 3-4 jours qu'au fond de moi, j'ai une discussion dont j'aimerais parler qui est super importante. Il se trouve que quelques jours auparavant, ma sœur était venue à la maison. Et au moment où elle part, les portes se referment sur notre intimité entre mon ex-mari et moi. Et à ce moment-là, il va me dire que j'ai pas le droit de dire cette phrase à ma sœur, j'ai pas le droit de me comporter comme ça, j'ai pas le droit d'avoir ce genre de discussion, blablabla. Comment ai-je osé parler de tel ou tel sujet? Puis en fait, quelques minutes avant, il était tout sourire, tout adorable, avec justement ma sœur et son beau-frère. Et au moment où les portes se referment, c'est une autre personne. Et ça, c'était quelque chose qu'il faisait absolument tout le temps. Ce changement de caractère, il pouvait passer s'il y avait du public d'une personne extrêmement sympathique à quelqu'un de sombre, presque traumatisant. Hein. Il y avait beaucoup de discussions qui étaient tendues. À ce moment-là, je me dis que c'était pas le moment d'en parler. Donc je garde cette discussion 3 ou 4 jours avec moi jusqu'à cette pause déjeuner dans la nature, grand soleil. Et je me dis, je vais l'amener avec délicatesse en me disant que mon point de vue, cette liberté que je veux conserver des phrases que je dis à ma propre famille, me semble quelque chose qui est capital. Il faut que je me batte pour cette liberté qui me semble évidente, en fait. Mais connaissant le bonhomme, je sais aussi que je dois utiliser des pincettes et que je vais être la plus douce possible. Et j'ai le malheur de dire que il a eu un comportement tyrannique. Et en fait, je le dis même, et je me souviens parfaitement, en rigolant. Pour être sûr que le message, c'est pas oh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es tyrannique ?» mais plutôt « C'est marrant ça, alors on dirait presque un comportement, allez, on va dire tyrannique. » Là, je le fais mal, mais sur le moment, j'essayais justement d'avoir le cœur léger. Et je vois dans son regard, alors que tout va bien, je vois dans son regard qui devient noir à ce moment-là, et il me dit « Personne n'a jamais osé me manquer autant de respect que toi. » Et ce mot que tu viens de prononcer, je ne veux plus jamais l'entendre. Et d'ailleurs, c'est fini entre nous. Et il part à vitesse grand V. C'est une personne sportive. Je le vois disparaître avec le sac, la boisson et la nourriture. Et il me laisse planter là. Ma réaction immédiate, c'est de paniquer parce que moi, je ne suis pas à la base une très grande sportive et puis surtout, je ne m'y connais pas du tout dans les cartes de la région ni en pot de phoque. Je sais qu'il va repartir dans la direction d'où on est venu, mais on est à peu près à 2h30, peut-être 2h30 de où la voiture a été laissée. Et je me vois, en fait, je sais pas, pas retrouver mon chemin ou pas rencontrer quelqu'un ou pas pouvoir rentrer chez moi. La nuit peut tomber relativement vite. Si je trouve pas mon chemin, ben c'est quand même problématique. On est quand même dans l'après-midi à ce moment-là. Donc, je pense que, en fait, je me suis juste grouillée, comme on dit en Suisse, pour être vers une route, en fait. Et je me rappelle pas énormément de ce qui s'est passé parce qu'en fait, je halète, j'ai de la peine à respirer, je pleure, j'ai un peu peur, forcément. Et en fait, tout ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il faut que je trouve une voiture, que je trouve une route et puis que je puisse rentrer chez moi. Mais j'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de carte de crédit, j'ai pas de documents de mon identité. J'ai en fait zéro aide, à part si je tombe sur quelqu'un qui va m'aider. Et 2h30, peut-être 3h plus tard, je retrouve la route qui devait monter au col où on était. J'arrive à relocaliser plus ou moins là où on avait laissé la voiture. En fait, la voiture était partie. Mon ex-mari a dû foncer comme un fou, prendre la voiture et disparaître. Je me dis qu'il doit être extrêmement fâché contre moi pour être aussi stupide d'abandonner sa femme enceinte, que je vais passer un sacré quart d'heure pour un mot que j'ai dit. Je sais au fond de moi, évidemment, que c'est d'une injustice extrême. On peut avoir des moments où c'est plus difficile de se contrôler, certes, mais dans le cas de mon ex-mari, c'était quotidien, ce genre de choses. J'avais l'habitude de dire que je voyais pas de différence dans sa façon de réagir s'il était malade, énervé, fatigué. En fait, il avait juste cette tête froide et apathique. S'il avait des allergies ou s'il était en train de tomber malade ou s'il était monstrueusement fâché contre moi, par exemple, je voyais pas la différence. J'essayais toujours de lire ses émotions, de mettre des mots sur ses émotions parce que lui n'en mettait pas. C'était juste un mur de ciment. Et il s'enfermait, et il parlait pas. Donc à ce moment-là, quand je reviens sur la route, je vais faire du stop, tout en essayant de me dire quels sont les mots que je vais utiliser. Je vais retourner à la maison, c'est là où j'habite. Hein. Est-ce qu'il aura déjà changé la serrure? Enfin, j'en sais rien. Il est capable de tout, très vite. Il peut prendre des décisions extrêmement rapidement. Donc en fait, je me fais le film de tous les scénarios possibles. Mais à ce moment-là, je me sens pas bien et je redoute le moment de revenir à la maison. J'arrive à la maison vers le début de soirée, en fait. Et là, la conversation n'a pas lieu. Il me dit juste que je suis complètement irresponsable d'utiliser ce genre de mots envers lui, que jamais aucune personne sur la planète n'a osé le traiter de la sorte. Et donc, c'est totalement justifié de m'abandonner au milieu de la nature et m'apprendre une leçon, on va dire. Hélas, pour moi, c'est pas un épisode isolé. Et c'est un comportement sans aucun remords, sans demande de pardon, qui est normal pour le père de ma fille. Après cet épisode, comme c'était en fait une relation qui, d'une façon générale, était maltraitante, c'est-à-dire que c'est pas un épisode qui est tout d'un coup maltraitant, puis on trouve que c'est extrêmement injuste et que c'est pas normal. Pour moi, ça faisait des mois et des mois que je m'habitue à être peu considérée. Je me souviens que, par exemple, un truc qui était normal, si mon ex-mari aimait pas ce que j'avais fait à manger, il jetait. Donc je lui apportais, c'est moi qui cuisinais, hein, je lui apportais ce que j'avais fait, et il ouvrait la poubelle en disant que c'était pas bon. Et Dieu sait que je cuisine bien, sans vouloir me vanter, c'est une de mes activités préférées. Avec sauce, avec amour, avec complications, j'adore la cuisine française. Donc ça, c'était des choses que je vivais. Je me souviens de choses banales, comme j'achète des piles pour un appareil électronique qui m'appartient. Monsieur me demande d'aller les rendre immédiatement au magasin parce que j'ai payé 20 centimes trop cher. En fait, tout était sujet pour avoir un contrôle complet. La façon dont on pliait les draps, le parfum que je mettais, le maquillage que je mettais. Il me disait par exemple, non, je ne t'embrasserai pas parce que tu as mis du fond de teint. Après, c'était non, je ne t'embrasserai pas parce que la couleur de ton rouge à lèvres, je ne la trouve pas belle. En fait, c'était une cage, mais de tous les instants. On s'est mariés alors que j'étais à 8 mois et demi de grossesse. pour que, en effet, la petite puisse avoir son nom de famille. Il n'y avait pas de romantisme hein, dans ce mariage. Le mariage de mes rêves, en fait, n'avait pas du tout eu lieu. J'avais toujours rêvé de pouvoir le partager avec mes amis, avec ma famille. Et monsieur voulait pas le faire là où on habitait, parce qu'on risquait d'avoir ma famille, justement. Et donc, il l'a fait en pleine semaine à Paris, afin que personne ne vienne. Le jour où je donne naissance à ma fille, c'est certainement le plus beau jour de ma vie. J'ai eu un accouchement absolument génial. Je pars de l'hôpital le jour même. Et en fait, un jour après, mon ex-mari me demande déjà d'avoir des relations sexuelles avec lui. Ce qui peut paraître étonnant, parce que j'ai subi une épisiotomie. J'ai pas eu d'anesthésie. Et la médecin qui était censée me recoudre l'a fait à vif. Bref, donc j'ai quand même pas retrouvé ma forme après une journée, on peut dire. Et c'est déjà une pression, en fait. Comme monsieur est thérapeute de couple et thérapeute de famille, il dit dès le départ que s'il veut jouer un rôle dans la vie de ma fille, il faut que ce soit moi qui lui laisse ce rôle, et que ça passe aussi par ne pas penser qu'à mon enfant. Et donc, des relations sexuelles dès le début peuvent être bénéfiques. La relation, après, ne va pas évoluer énormément. Je suis à 100% avec mon travail, mais à 100% en tant que maman. Et je fais à peu près tout pour elle. C'est pas un père qui est actif dans la vie de ma fille. Il va pas faire une activité pour elle, ou lui lire un livre, ou faire un pulse, ou lui parler, ou lui chanter. Et en fait, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça que je découvre que il me trompe. C'est le jour où je vois qu'il y a un pulse qui est fait dans la chambre de ma fille, et c'est pas moi qui l'ai fait. Et c'est très bête, hein, mais c'est cette image que j'ai de me dire, je sais que ça peut pas être le papa qui a joué avec son enfant. Ça n'existe pas, je l'ai jamais vu, je le verrai jamais. Et en fait, je lui pose directement la question, qui est venu quand j'étais pas là? Et il me dit, ah, c'est une femme. Et en effet, elle a dormi ici. Moi, j'avais un concert en France et je venais de rentrer de concert. Et c'est là que j'ai appris, en fait, qu'il avait quelqu'un aussi dans sa vie. Et je me suis sentie presque soulagée, en fait, parce que je cherchais une façon de sortir de cette cage ou de cette relation qui était devenue extrêmement pesante et contrôlante. Je savais que si je voulais divorcer de cette personne, il fallait que je le fasse sans aucune prétention pécuniaire, parce que j'allais être mais détruite, non pas parce qu'un divorce est difficile, mais simplement parce que j'aurais osé prétendre à un euro. Donc en fait, il y a un site web en Suisse où on peut faire un divorce online. Il faut juste que ce soit validé par un huissier, par un juge. Il faut payer 400 euros à peu près pour valider ce papier. On s'est séparés quand ma fille avait 2 ans. Le divorce officiel a été prononcé quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans à peu près. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est le début d'une liberté retrouvée. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui m'appellent, qui sont très désolées, qui me disent « Oh, mais mon Dieu, tu divorces, t'as un bébé, ça c'est vraiment compliqué. » Et pour moi, dans ma tête, c'est juste le début de la liberté, de nouveau. D'avoir cette possibilité de redécider des petites choses comme ce que je vais manger, ce que je vais cuisiner. Je sais que pendant les premiers mois, je me réjouis de laisser, par exemple, la lumière dans mon hall et que personne ne me dise quoi que ce soit. Parce que je me faisais gronder parce que j'avais pas éteint la lumière, mais vraiment comme un gamin. Hein. Je me réjouis d'acheter un type de lait que je préfère. Je me réjouis de toutes petites choses. Mais en même temps, il y a cette ombre de garde partagée. Il y a simplement la difficulté pour moi, en tant que maman, de savoir que bien que j'ai échappé à cette personnalité qui disait d'ailleurs d'elle-même hein, qu'il avait des tendances narcissiques et perverses, il le sait en tant que psychiatre. Moi, j'y échappe, mais ma fille est encore confrontée 1 semaine sur 2. Il y avait pour moi le devoir de me rebagarrer avec le papa pour demander cette garde complète. Garde que j'ai pu obtenir 4 ans plus tard. Dix-neuf ans plus tard, je vais très bien et ma fille est une femme exceptionnelle. C'est pas une personne manipulatrice pour un sou. Elle veut devenir médecin, non pas comme son père, mais pour aider des gens, sauver des gens. Je n'ai jamais refait de randonnée, je n'ai jamais refait de peau de phoque, je n'ai jamais été isolée au milieu de la montagne, c'est pas quelque chose que j'ai fait durant ces 19 dernières années. Je refais du ski, par contre du ski alpin, parce que mes enfants adorent ça, mais de la randonnée, jamais.
C'était Un divorce alpin, un reportage de Carole Bailly réalisé par Louise André. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet. Stitches.